Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, ce ne sont pas les animaux, mais c'est l'intérieur. Et aujourd'hui, on fait le tour de chez soi. Et c'est vaste. Dans les premières pages de son ouvrage « Ce qui fait une vie », paru aux éditions Zone en 2010, la philosophe Judith Butler se demande comment réfléchir à ce qui fait une vie vivable, une vie dont on pourra faire le deuil, comment réfléchir à cela pour l'individu et l'intellectuel qu'elle est dans un monde qui par ailleurs et depuis longtemps organise collectivement la violence sur tant d'autres vies que la sienne. Comment faire, que faire de cette tension dans la pensée et dans les faits ? De même, dans le livre qui nous occupe aujourd'hui, la question du confort, le confort mental, cette fois ne se résoudrait pas seulement par le fait d'être bien logé, mais par celui de vivre enfin dans un monde où les autres seraient aussi bien logés. Cette semaine s'ouvre donc encore une fois sur une image maintes fois décrite ici, probablement parce que je ne sais qu'en faire sinon la déposer sur ces ondes, l'image de centaines de tentes sous le métro aérien à Paris, entre La Chapelle et Barbès, des tentes abritant de plus en plus d'hommes, majoritairement soudanais et érythréens, demandeurs d'asile, rejoints tout récemment par des Tunisiens dont le sort est aussi peu enviable. Alors on publie des livres jeunesse pour répondre aux enfants qui se demandent pourquoi les messieurs, ils dorment dans la rue. Il est 16h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des nouvelles vague. Chaque jour, vers 16h45, nous demandons à quelqu'un de nous raconter un moment marqué par une émotion forte. Et il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au foyer de vie pour travailleurs migrants africains Rubisson, à Paris, et nous y avons rencontré Sidi, Chantal et Sylvain, dans le local qui sert notamment à un atelier radio animé par l'association Attention Chantier. Et aujourd'hui, c'est Chantal qui nous raconte comment elle apprend le français, d'abord en répétant après la radio, puis après la télévision, puis en se cachant dans des salles d'université. La langue comme chez soi, vers 16h45. Charlotte Perriand a quasiment vécu la totalité du XXe siècle. Elle est née à Paris en 1903, elle est morte à Paris en 1999 et dans les années 30, elle travaille beaucoup auprès de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Datant de cette même époque à peu près, début des années 30, il y a une image de Charlotte Perriand qui est très fameuse et très joyeuse et très simple et très belle. Elle se tient torse nu, dos au photographe, en pantalon sombre, elle regarde la montagne et elle semble s'étirer. Et son attitude n'est pas conquérante, mais elle apparaît pouvoir dialoguer d'égal à égal avec la nature étalée devant ses yeux et qui est renversante de beauté. Seul son cou est habillé d'un collier de perles blanches. On l'entend ici bien des années plus tard, en 1984, réfléchir à la notion d'intérieur dans une émission titrée « Charlotte Perriand ou l'art d'habiter » diffusée sur France Culture, Archives.
Le Corbusier ne dissociait pas les choses, et c'était très important. C'est-à-dire pour lui, l'équipement intérieur procède des gestes et va vers l'extérieur, et de l'extérieur vers l'extérieur. L'intérieur, c'est un tout, donc c'est un aller-retour. Et c'est une erreur de dissocier ce qu'on appelle architecture façade, si l'on peut dire, hein, sans trop s'inquiéter de tous les gestes qui vont s'opérer à l'intérieur. Autrement dit, on a des disciplines complémentaires, n'est-ce pas ? Vous avez l'architecture et l'équipement, mais en fait, c'est un tout, c'est une unité. Et quand vous regardez les architectes comme Aalto, notamment Le Corbusier, Breuer, etc., Gropius et d'autres, et ils dessinaient tout. Ils dessinaient leur poignée de porte. Ils ne restent pas sur leur charpente de béton ou d'acier, mais ils dessinaient absolument tous les détails. Ils étaient capables de tout faire.
There is a sun.
Pour commencer, c'est David de Jacobovies qui vous fait entendre le titre « Eclipse » de Colline. Ce soir à 23h, clin d'œil obligé, l'atelier intérieur d'Aurélie Charron est consacré aux corps empêchés, aux corps en liberté, au programme de la photographie en prison et de la photographie dans l'espace public en Égypte, entre autres. Et puis vous pourrez aussi demain écouter dans l'émission « Les pieds sur terre », donc c'est à 13h30, entendre donc une histoire de maison pour vous concocter des programmes comme à la maison. Abonnez-vous aux différents podcasts franceculture.fr, c'est facile et pour l'instant c'est gratuit. Vous écoutez les Nouvelles Vagues en direct sur France Culture, il est 16h, passé de 9 minutes, nous débutons aujourd'hui une semaine autour du thème intérieur. Puisque le sujet est vaste, que les symboliques sont infinies, peut-être peut-on commencer par dire qu'il est possible, mais rare, de se sentir chez soi à l'intérieur d'un livre, et qu'il s'agit là d'un sentiment de lecteur joyeux. On se sent chez soi parce qu'un espace y est créé et parce qu'une science de la lettre et de la pensée nous y fait circuler d'une particulière façon que nous reconnaissons à l'autre tout en s'y reconnaissant soi. Car être chez soi, c'est aussi la possibilité d'être soi et cette possibilité souvent est offerte par quelqu'un qui en prend l'aisance ou le risque devant nous. En d'autres termes, rien ne vous fait paradoxalement plus vous sentir chez vous que de vous trouver en face de quelqu'un ou de quelques pensées qui s'y trouvent chez soi justement et qui s'y trouve bien. Chez soi, c'est donc le titre du livre qui ouvre pour nous une semaine thématique autour de l'intérieur, renvoie aussi à un temps. C'est un essai qui, il me semble, est très chez lui dans l'époque, tant l'élasticité de son propos est souple à accueillir de larges questions touchant à l'espace que l'on habite, bien sûr nous causerons maison, mais aussi aux manières de construire, de travailler, de vivre en famille ou en couple, ou en colocation, en tout cas de vivre. Gaston Bachelard parle dans son livre La poétique de l'espace d'une tâche de description des adhérences, voilà peut-être un livre qui semble adhérer à son auteur. Et formellement à nous, Mona Chollet, vous êtes journaliste au Monde diplomatique. Vous publiez « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » aux éditions Zone. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Pour reprendre à la fois votre titre et un fameux titre de Virginia Woolf, et parler d'une chambre à soi, combien de temps avez-vous passé à écrire ce « Chez soi » et dans quel lieu ?
Je l'ai écrit chez moi, ça vous surprendra pas. J'ai commencé, je l'ai écrit en un an. J'aime bien commencer en janvier et finir en décembre. Je trouve que ça cadre bien les choses. J'ai commencé par l'écrire les week-ends et pendant une grande partie de l'année. Et ensuite, j'ai eu le luxe de pouvoir prendre un congé sabbatique pour terminer. Ce qui fait que je crois que je pourrais écrire encore un autre livre sur l'expérience du congé sabbatique parce que voilà, ça m'a encore ouvert de nouvelles. Observation. Mais bon, les chapitres que j'avais consacrés au temps passé chez soi étaient déjà écrits, donc en fait, j'y suis pas revenue. J'ai laissé tel que c'était. Donc, c'est vrai que le chapitre qui parle du temps passé chez soi porte plutôt la trace de la famine de temps dans laquelle j'étais.
Avant de prendre le congé sabbatique. Puisque je parle de Virginia Woolf et que son combat pour une chambre à soi était formulé comme un combat, est-ce que vous diriez que justement cette famine de temps et de temps à passer chez soi ou pour soi était vivace et pourquoi ?
Je crois que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit un refus de l'extérieur ou une défiance envers l'extérieur ou un désintérêt pour l'extérieur. Il me semble que c'est plutôt l'intuition que si on peut maintenir une certaine unité de temps et de lieu, de façon assez satisfaisante, il pourra se passer des choses. Je laisse ça volontairement dans le vague parce que c'est souvent des choses très inattendues, Enfin, il me semble qu'il y a une modification de l'état intérieur qui est très exigeante en temps, en fait. C'est-à-dire que souvent, on a quand même à peu près tous des emplois du temps très remplis, très structurés, très hachés, avec des temps assez courts, minutés. Et on oublie un peu ce que ça peut être d'être sur un autre rythme, de se laisser un peu dériver. Les états de conscience auxquels on peut arriver en se laissant dériver sont quand même très intéressants et on passe souvent à côté.
Dont certains vous ont surpris, ou peut-être même dont certains que vous ne connaissiez pas, vous concernant ?
Surprise, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est impossible à prévoir, à programmer, ce qui est très frustrant parce que on aime bien aussi pouvoir programmer les choses, enfin obtenir des satisfactions un peu sur commande. Et là, on est un peu obligé de, bah, de mettre en place les conditions, et puis en fait, il peut très bien ne rien se produire, et puis ou peut-être que si. Enfin, c'est complètement imprévisible, et oui, ça dépasse complètement notre maîtrise.
Le premier chapitre s'appelle « Mauvaise réputation ». D'une certaine manière, vous répondez à une suspicion des casaniers, à une suspicion adressée à ceux qui veulent rester chez eux. Et vous le faites aussi depuis un point de vue qui est un point de vue, bien sûr, individuel, mais aussi professionnel, celui du journaliste, de la journaliste. Ouais. Et vous soutenez une possibilité d'avoir une vision du monde en n'allant pas sur le sacro-saint terrain, tout en continuant de considérer que d'aller sur le sacro-saint terrain est une nécessité.
Absolument, ouais.
Comment, justement... de cette critique adressée ou de cette suspicion vous étant adressée, vous avez bâti autre chose.
J'avais envie de lutter enfin contre ce préjugé ou plutôt contre cette vision des choses qui me paraît tellement simpliste, comme si parfois on considérait qu'il suffirait de se transporter dans un lieu ou dans un pays étranger pour tout d'un coup en saisir une espèce d'essence ou de vérité. Et il me semble que c'est... Alors que justement, quand on serait dans une routine ou dans des lieux toujours familiers et qu'on ne bouge pas beaucoup, on serait forcément borné, incapable de produire des réflexions, des pensées. Il me semble que c'est vraiment faux. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup... Enfin, pour essayer de résoudre ce paradoxe, je me suis beaucoup... Enfin, du fait que, évidemment, c'est embarrassant d'être une journaliste casanière, c'est très... c'est indéfendable, quoi. Et d'ailleurs, je prétends pas du tout qu'il faudrait que les journalistes ne sortent pas, ou je pense que c'est absolument indispensable. Mais il me semble qu'on pourrait revoir un peu les registres, quand même, c'est-à-dire se rendre compte que... Bah, par exemple, dans le cas des écrivains voyageurs, souvent c'est des gens qui alternent énormément, c'est-à-dire qui ont des périodes où ils restent enfermés chez eux. Ça peut être des gens très casaniers, en fait, les écrivains voyageurs.
Bah oui, d'ailleurs, vous parlez de votre passion pour Nicolas Bouvier, en citant des passages d'une correspondance qui était en tout cas inconnue pour moi, où il dit « cette maison, je l'ai dans les eaux », en parlant d'une maison qui lui est prêtée par des amis. C'est très très émouvant quand on sait par ailleurs, et ce que vous décrivez aussi, qu'il va de par le monde et que sa littérature est pétrie de ça. C'est quelque chose qui vous réconcilie, par exemple, de pouvoir lire ça sous la plume de Nicolas Bouvier ?
Oui, complètement, ouais, ce serait réconfortant. Il y a un très beau petit texte qu'il a écrit qui s'appelle aussi « La chambre rouge », qui parle de la chambre où il a vécu quasiment, il y a passé 40 ans dans cette chambre, enfin évidemment avec l'intervalle des voyages, mais il en parle magnifiquement. Et oui, je pense qu'il est il est profondément un écrivain en chambre en même temps qu'un écrivain voyageur. Et peut-être qu'il est d'autant mieux un écrivain voyageur, d'autant meilleur qu'il est aussi par ailleurs un écrivain en chambre.
Quand vous dites que c'est insoutenable le fait d'être une journaliste casanière, c'est parce que ça sous-tend quoi, cette suspicion ? Qui d'ailleurs s'étend bien largement au-delà de la profession de journaliste, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très valorisé, le fait de dire « bah non, j'ai plutôt rentré chez moi, j'ai plutôt resté chez moi ce week-end, qu'est-ce que t'as fait, je suis restée chez moi ».
Ouais, bah ça dénote tout de suite on vous soupçonne de manquer de curiosité, et il me semble que c'est pas forcément, enfin ça peut être, le chez-soi peut être un autre lieu où exercer sa curiosité d'une manière différente en fait. C'est vrai que la lecture, ça demande du temps, ça demande du calme, la réflexion, la rêverie, enfin le sommeil. Enfin, je pense que le contact avec le monde, il se fait par des voies beaucoup plus subtiles que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Et peut-être qu'on est aussi un peu dans un monde où on est toujours encouragé à consommer des sorties, des loisirs. En plus, maintenant, on est aussi encouragé à les exhiber sur Facebook ou Instagram. Il faut avoir des choses à montrer quand on est sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je pense qu'il peut y avoir aussi un petit. J'adore les réseaux sociaux. Hein, par ailleurs, je suis complètement accro aux réseaux sociaux, donc c'est pas du tout une critique technophobe primaire. Mais je crois qu'il y a aussi. Il me semble qu'il y a aussi. Ça a pu renforcer un côté. Où finalement on renverse un peu l'ordre des choses et notre vie ce serait plus ce qu'on en montre que ce qu'on éprouve ou ce qu'on vit simplement.
Je suis partie de l'idée que chez soi ça pouvait être aussi être soi, puisque vous dites que être chez soi c'est avoir la possibilité de rencontrer le monde ou faire l'expérience du monde autrement. Est-ce que c'est aussi la possibilité, et à travers ce livre-là, de se rencontrer soi et de faire l'expérience de soi qui nous serait par ailleurs retirée ?
Oui, bah ouais, je crois que c'est une des dimensions importantes pour moi. C'est-à-dire, je crois que dans le chapitre où je parle de ma frustration de manquer de temps justement à la maison, j'explique que j'ai l'impression que évidemment le soi c'est toujours un peu une illusion. C'est-à-dire qu'on est une sorte de, on fait jamais que métaboliser des influences extérieures et les organiser d'une manière qui nous est propre. Mais il faut du temps et du calme justement pour que ce processus puisse se faire bien. Et moi, j'étais très partagée à cette époque-là entre l'impression et la satisfaction d'apprendre beaucoup de mes collègues, des gens que je voyais tous les jours. Mais en même temps, il se mêlait à ça une peur de perdre ma propre voix, ma propre identité, parce que j'avais l'impression que cette métabolisation ne pouvait pas se faire dans des bonnes conditions. En fait. C'est-à-dire, il faut pouvoir laisser décanter, il faut pouvoir laisser reposer les choses et... Enfin, beaucoup d'auteurs utilisent l'image de musique aussi. Ils disent il faut apprendre à faire sa musique. Et je trouve ça assez joli, quoi. Je pense que c'est ça, le chez-soi, c'est un lieu où on peut découvrir sa propre musique aussi.
C'était une condition d'écriture pour vous, à la fois journalistique, à la fois d'écriture d'essais, par exemple ?
Oui, ouais. Je crois que ça fait partie... Ouais, c'est presque une sorte de sécrétion du lieu, en fait. J'ai jamais compris les gens qui arrivent à écrire dans les cafés ou dans les trains. Pour moi, c'est complètement inimaginable. Ça me paraît déjà très impudique. Après, il y a plein de gens qui écrivent des choses magnifiques dans les trains et les cafés. Donc, visiblement, c'est possible, mais j'ai jamais compris.
Vous faites aussi la comparaison entre une sorte de prédominance sociale d'être à l'extérieur et celle d'une idée d'une objectivité journalistique, c'est-à-dire que le chez-soi serait le royaume de la subjectivité, décrié, et le hors-chez-soi, l'extérieur, serait le royaume de l'objectivité valorisé dans le cadre du métier que vous exercez. En quoi est-ce que c'est important pour vous aussi, par cet essai-là, il me semble, de réhabiliter l'idée d'une subjectivité qui ne serait pas hors du travail ?
Oui, c'est vrai. De toute façon, l'objectivité, c'est une illusion complète. Donc, non, je crois que le meilleur moyen de faire un bon travail journalistique, c'est d'assumer sa subjectivité. Après, ce qui dispense pas d'être honnête, rigoureux, mais je crois qu'il vaut mieux assumer son point de vue, en fait, assumer son bagage. Je crois qu'il y a rien de pire que de s'imaginer qu'on est neutre, parce que dans ces cas-là, on fait que régurgiter des lieux communs, des clichés, ou la vérité dominante. Enfin, ça m'a toujours paru catastrophique.
Alors pourquoi est-ce que c'est décrié comme façon de travailler, cette question de la subjectivité ? Pourquoi est-ce que c'est même fui ?
Bonne question. non, peut-être qu'on... Je sais pas. Non, à vrai dire, je sais pas trop. Vous avez une idée ou ?
Ouais, mais bon, pas là pour ça.
J'ai commencé par le commencement. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, c'est trop grand, c'est pas... La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin, la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai... j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein ? Vous n'avez jamais fait cela ? Avez-vous eu un grenier dans votre vie ?
Bien sûr, heureusement.
Bon, heureusement. Et les femmes ne vont pas à la cave de mon pays. Vous
moi,
alliez à la cave ?
Non.
Eh bien
non.
Voilà, par conséquent, vous voyez, voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
La maison abrite la rêverie. La maison protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. Il n'y a pas que les pensées et les expériences qui sanctionnent les valeurs humaines. À la rêverie appartiennent des valeurs qui marquent l'homme en sa profondeur. La rêverie a même un privilège d'auto-valorisation. Elle jouit directement de son être. Alors les lieux où l'on a vécu la rêverie se restituent d'eux-mêmes dans une nouvelle rêverie. C'est parce que les souvenirs des anciennes demeures sont revécus comme des rêveries que les demeures du passé sont en nous impérissables. Notre but est maintenant clair. Il nous faut montrer que la maison est une des plus grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Et dans cette intégration, le principe liant, c'est la rêverie. Le passé, le présent et l'avenir donnent à la maison des dynamismes différents, des dynamismes qui, souvent, interfèrent, parfois s'opposant, parfois s'excitant l'un l'autre. La maison, dans la vie de l'homme, évince des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme serait un être dispersé.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
On entend ici, Mona Chollet, un extrait de La poétique de l'espace de Gaston Bachelard que vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Et juste avant, on entendait sa voix, incomparable voix, dans une archive de 1959 où il dit « Je dis toutes les puissances de la maison », qui est une très très belle expression et où il parle du repos, de la rêverie. C'est aussi quelque chose que vous discutez, que vous travaillez. Et là, pour le coup, en sortant de chez vous, puisque votre livre est aussi nourri énormément d'enquêtes et de considérations qui vont à l'international, le lieu de chez soi comme étant le lieu de la rêverie et le lieu du repos, et comme étant aussi le lieu de... C'est-à-dire quand il n'y a pas de chez soi, il n'y a pas de ça. Et vous faites aussi l'enquête de ce manque. Par quoi est-ce que vous êtes passé justement pour aller trouver toutes ces références-là, voir où les choses manquaient, où les choses étaient? Comment est-ce que vous avez procédé finalement pour bâtir cette réflexion?
J'ai pas l'impression d'avoir tellement procédé. J'ai l'impression que c'est plein de choses qui se sont agglomérées en fait au fur et à mesure que j'avançais. C'est ça que j'aime bien aussi en fait, c'est l'impression de rassembler plein de choses que j'ai accumulées au fil des ans, que ce soit dans des classeurs, des livres, des signets sur le web, enfin plein de sources différentes qui en fait à un moment s'assemblent et c'est ça que j'adore en fait, c'est de trouver une cohérence qui apparaît entre une résonance en fait entre deux petits éléments qui paraissaient complètement sans rapport au premier abord. Et vraiment cette recherche de résonance entre des auteurs, des citations, c'est quelque chose qui me... Enfin, surtout au début quand j'ai commencé à écrire des essais, je me rendais fou. Mes éditeurs, parce que je citais tout le temps. Enfin, c'est comme quand vous savez quand vous mettez deux livres dans une bibliothèque parce que vous avez l'impression qu'ils peuvent dialoguer ensemble et c'est comme si voilà quand vous tournez le dos, quelque chose pouvait se passer à travers leur couverture. Et c'est un processus que moi j'aime vraiment bien et que j'ai l'impression d'observer autant que je le mène en fait.
À cet égard, d'ailleurs, le livre « Chez soi » est conçu comme une maison où on circule d'une pièce à une autre et où on a l'impression de rencontrer, en effet, toute une matière agglomérée qui finalement fait une maison, une sorte de maison de pensée. Mais pour en revenir peut-être à cette thématique de la rêverie, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes accro aux réseaux sociaux et en effet se pose la question de l'intérieur-extérieur quand l'appartement, la maison, la cabane est connectée à Internet. Comment est-ce que c'est quelque chose que vous résolvez cette tension-là?
Oh, je la résous pas du tout. non, elle continue à me travailler, à me poser plein de questions, mais c'était impossible de pas en parler parce que c'est peut-être, on peut plus parler de la maison simplement comme le faisait Bachelard à l'époque, quoi. C'est-à-dire, c'est une dimension qui reste vraie à mon avis, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'atmosphère domestique a été complètement, enfin. Pour moi, en tout cas, elle a été complètement transformée par le fait. Donc, en fait, pas tant par Internet en tant que tel que par les réseaux sociaux, parce que s'il y a ce côté très particulier du fait que les autres sont toujours là, en fait, ils sont toujours dans la pièce avec vous à partir du moment où vous vous connectez, vous êtes envahi de présence plus ou moins amicale, drôle, agressive, enfin, tout ce que. C'est comme si vous étiez, c'est comme si on déclenchait un concert de voix différentes qui se mettent presque à résonner dans la pièce. Et on se retrouve aussi enchaîné dans une certaine mesure au temps des autres, c'est-à-dire que c'est très tentant de tout d'un coup se dire tiens, bah je m'ennuie un peu, je vais aller voir ce qu'ils font, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils racontent, où ils sont. Et on peut très facilement, je crois, se laisser emporter, en fait, engloutir par ce temps commun et perdre, dans une certaine mesure, le quant à soi et l'indépendance qui sont quand même un des grands bénéfices du fait d'être chez soi.
Alors vous faites quoi? Vous éteignez l'ordinateur, vous débranchez le modem, vous racontez que chacun a, dans cette manière d'aller un peu de manière rhizomique chercher des informations dans plein d'études, dans plein de livres, vous racontez que chacun a sa méthode en fait pour résoudre ces tensions ou ne pas la résoudre d'ailleurs, mais vous faites comment vous alors?
J'ai un peu arrêté de lutter en fait, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'observer qu'à partir du moment où je me disais, où je m'imposais plus une discipline un peu artificielle en me disant non maintenant tu te déconnectes, tu te mets à travailler sérieusement, que finalement c'était, je sais pas, tout d'un coup je levais les yeux de mon texte, j'allais regarder ce qui se disait sur Twitter et je trouvais une pensée de quelqu'un qui faisait écho à ce à quoi j'étais moi-même en train de travailler. Donc ça marche pas à tous les coups évidemment, mais parfois c'était assez étonnant de cette impression de participer à une sorte d'énorme cerveau collectif. C'est un peu effrayant, mais c'est assez fascinant par certains côtés. Comme si ça, oui, il y avait une sorte de travail entrepris collectivement pour essayer de comprendre les choses, d'en rendre compte. Et puis comme si on était vraiment tous très pareils en fait, souvent, c'est drôle de se voir je trouve en miroir dans ce que certains peuvent dire parfois.
Est-ce que la séparation entre l'intérieur et l'extérieur survit à l'entrée de l'internet dans toutes les maisons pour ceux qui ont la chance d'en avoir?
Je sais pas. Il faut pas non plus idéaliser peut-être la situation d'avant Internet, parce qu'il faut jamais oublier qu'avant il y avait la télévision. et pour moi c'est bien pire la télévision dans un intérieur pour tuer la vie domestique. Je pense que Internet a eu le grand avantage pour moi de me délivrer de la télévision, c'est-à-dire qu'elle a vraiment disparu de ma vie. Donc je me méfie beaucoup des représentations un peu trop idylliques de comment c'était avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un temps qui est complètement troué en permanence par les intrusions des autres, parce qu'il y a les SMS aussi. C'est très déroutant, c'est-à-dire que c'est le pire et le meilleur. Je crois que et en même temps on plonge aussi dans des usages sur lesquels on n'a pas le moindre recul. On se met à expérimenter, tout d'un coup on se retrouve au bout de quelques années avec l'impression d'avoir un cerveau qui est absolument plus le même,
qui fait dire à je ne sais plus qui I miss my print and not
brain. Oui, ouais, mon cerveau d'avant Internet me manque. Ouais, c'est Douglas Coupland qui a eu un grand succès sur Internet justement. Parce que visiblement ça faisait écho à ce que ressentaient beaucoup de gens. Et c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est moi je me rends compte maintenant quand je suis en train de lire, tout d'un coup ça peut m'arriver de me dire ah cet article il est vachement bien, il faut que j'aille le tweeter. C'est comme si on était toujours déjà en train de comme si la pensée du partage était déjà là au moment de la réception de l'œuvre ou de l'information. C'est un peu effrayant en fait, mais bon, c'est quelque chose sur lequel on a tellement pas de recul. Je pense qu'il faut se laisser porter un peu, essayer de pas trop en souffrir, essayer de trouver des garde-fous. Je sais pas, peut-être je me dis en fait, peut-être que la différence n'est pas si grande que ça, parce que après tout, être dans une bibliothèque avant Internet, c'était déjà être dans une pièce pleine de gens d'une certaine manière.
Et donc avoir envie d'en parler à la sortie avec un ami.
Oui,
ou deux,
c'est ça.
C'était peut-être aussi l'idée du partage.
Ouais.
Dans l'archive de Bachelard, il est aussi question des hommes qui vont au grenier, qui sont solitaires, et de ceux qui vont à la cave, et des femmes qui ne vont pas à la cave. Bref, il est question d'une répartition genrée des espaces de la maison. C'est aussi une grosse partie du travail que vous entreprenez dans Chez Soi, Mona Chollet. Est-ce que Bachelard, je ne sais pas si c'est dans ce qu'on a dans l'archive qu'on a gardé, s'il utilise cette métaphore, mais la métaphore féminine, du corps féminin, du corps accueillant féminin pour désigner la maison est très très courante. Mmh. Est-ce que vous diriez encore, après avoir fait ce travail, que l'espace de la maison, l'espace domestique, est un espace très genré du côté féminin?
Bon, c'est vrai que cette fameuse métaphore du corps maternel, j'ai l'impression que c'est une image qui a été beaucoup utilisée aussi pour condamner le besoin de rester chez soi, comme si c'était quelque chose de régressif, en fait. Et pour moi, la délivrance que Bachelard a représentée, c'est que, pour moi, il est arrivé en disant, mais non, c'est pas du tout, c'est quelque chose de vital, au contraire. C'est vrai que c'est lié à l'enfance, c'est lié à des choses très primaires, mais on a besoin de garder le contact avec ces choses primaires, c'est une source de vitalité et de force, de puissance, comme il le dit. Il faut pas forcément se fustiger et penser qu'il faudrait s'y arracher et vivre bravement à l'extérieur toute sa vie d'adulte. Il faut plutôt s'aménager des allers-retours et revenir puiser régulièrement à la source de la maison telle qu'on a pu la vivre dans l'enfance. Mais ensuite, bon, évidemment, il y a la question de l'espace domestique, l'assignation de l'espace domestique aux femmes et inversement, qui est là et nettement plus compliquée. C'est vrai que j'ai rencontré une lectrice qui me disait qu'elle était un peu déçue parce que elle trouvait très beau tous ces passages sur, les passages un peu poétiques sur le chez-soi, etc., la rêverie. Et qu'ensuite, je revenais avec mes gros sabots de féministe pour parler du modèle de la femme au foyer, de l'enfermement des femmes dans la maison. Mais pour moi, ça aurait été impossible de faire l'un sans l'autre, en fait. Parce que, déjà, simplement, quand on parle du temps passé chez soi, concrètement, si du fait que les femmes sont largement encore préposées au fonctionnement de la maison et de la maisonnée, le temps pour elles est très... Ce temps-là, elles en disposent beaucoup moins que les hommes, en fait.
Et le temps chez soi est teinté, puisqu'on a commencé par dire que le chez soi se rapportait à la pensée, à l'élaboration de la pensée, à la possibilité de forger une subjectivité, une petite musique, bref, à faire quelque chose. Si l'on se retrouve à réfléchir au temps assigné à la domesticité, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, même s'il y a toute une façon très agréable et très bénéfique de le faire, on n'est plus du tout au même endroit, et finalement le temps d'être chez soi pour créer n'est pas spécialement assigné aux femmes, n'est pas proposé aux femmes.
Ah non, pas du tout, non.
Mais on aurait pu croire que écrivant un essai que j'ai qualifié de son temps, parce qu'il me semble qu'en effet il colle à son temps et aux questions du 21e siècle, vous alliez nous révéler que toutes ces choses avaient changé. En réalité, c'est pas du tout ce qu'on trouve dans ces pages-là, on trouve des choses qui sont assez statiques sur ces questions-là.
Non, ça n'a pas changé. C'est incroyable comme c'est résistant. On parle souvent du fait que la répartition des tâches ménagères, le temps mesuré par l'INSEE entre les hommes et les femmes, ça a très peu bougé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très enraciné. Et finalement, c'est pas seulement. Les corvées sont aussi enrobées d'un vernis glamour. C'est-à-dire que le modèle de la femme au foyer qui se réalise, qui trouve le bonheur en se mettant au service de son compagnon, de ses enfants.
Et là, vous étudiez des blogs dont je n'avais pas connaissance, mais qui semblent en effet
ça passe beaucoup
valoir le détour.
Ça reste. C'est un modèle qui date du 19e siècle, dont on peut faire la genèse, qui est assez intéressante. Et ce modèle qui a deux siècles, il n'a pas bougé, en fait. Il continue à se renouveler avec une force vraiment impressionnante.
Mais on a l'impression qu'il y a une alternance entre la critique de ce modèle et sa revalorisation. Parce que tous ces blogs-là, par exemple, qui sont des blogs de femmes ou bien qu'on dit au foyer, ou bien passant beaucoup de temps chez elles à élever leurs enfants, à faire la cuisine, à avoir un bel intérieur, à attendre leur mari, ça pourrait être vraiment ce qu'on a qualifié potiche pendant un moment donné et qui aujourd'hui trouve une glorification et une page dorée par des blogs qui sont, qui rendent très appétissant cette fonction-là, notamment pour les publicitaires, pour les marques et compagnie. Il y a une sorte de retournement à la situation.
Oui, et puis il faut pas oublier que, par ailleurs, je pense que le foyer redevient un lieu désirable aussi parce que l'extérieur est tellement violent et le monde du travail est tellement violent. C'est-à-dire que je pense et encore plus, il est peut-être encore plus violent pour les femmes que pour les hommes. Donc la tentation de s'en échapper et de finalement de passer tout son temps et son quotidien dans un univers familier qu'on a façonné soi-même avec des gens qu'on a choisis, voire des gens qu'on a conçus dans le cas des enfants. Je pense que c'est objectivement très tentant. C'est-à-dire que c'est pas du tout un pari qui est absurde. Même si, évidemment, après, ça pose beaucoup de... Enfin, ça expose à retomber dans le modèle que les femmes rejetaient dans les années 70, c'est-à-dire à se retrouver complètement dépendante financièrement de son compagnon ou de son mari, enfermée dans un certain nombre de tâches qu'on peut trouver très limitées au bout d'un certain temps, désocialisée. Enfin, il y a évidemment tous ces risques-là. Mais, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne voulais pas non plus être dans quelque chose de trop caricatural en disant sortez, allez travailler, prenez un emploi, l'emploi vous sauvera. Ce n'était pas du tout le propos que je voulais tenir.
Ce n'est pas celui que vous tenez, puis si vous vouliez le tenir, de toute façon...
Oui,
à l'extérieur,
oui,
non, voilà.
Ouais.
On écoute une autre femme qui ponctue ce livre.
Dans ce texte, je me suis souvenue avec prédilection de mes années d'étudiante, qui était un temps vraiment extraordinairement voué à l'oisiveté. Mmh. Et il m'a semblé, en y repensant, que ce que j'avais vraiment appris à cette époque n'était pas du tout à l'université, et même à peine dans les livres, d'une certaine façon, mais c'était dans la découverte des chambres, et que la passion qui m'avait vraiment habitée, c'était passer de chambre en chambre. C'était des chambres comme lieu de passage et de clandestinité. C'était des chambres, d'abord, dont je déménageais très souvent, mais je crois que c'était une chose d'époque, on déménageait énormément, et où il n'y avait jamais le temps de vraiment s'installer, mais qui, dès l'instant même où on y était, ouvrait pour nous un champ illimité de possibles. On était absolument là. Et comme c'était des chambres de bonne, c'était vraiment au-dessus de la ville. Et cette chambre, suspendue, elle est à cette image même d'un bonheur, au fond, ni ambitieux ni volontariste. Un pur bonheur presque de hasard et de découverte.
Après une folle crémaillère, elle s'était installée chez moi. Dans ma petite chambre sous les toits, parmi mes disques, parmi mes livres, elle m'avait dit, avec la candeur de ses grands yeux noirs, fais-moi une place sur ton petit divan vert, une petite place dans ton petit univers, près de toi sous la lampe le soir. Elle installa sous ma petite fenêtre à tabatière toutes ces petites brosses et ces pinceaux légers dont une femme ne peut pas se passer le soir avant de se coucher. Et nous vécûmes au jour le jour parmi mes livres ouverts au son des disques qui me sont si chers sous ma petite fenêtre à tabatière, d'éternels amours passagères. Ah, quel fouillis parmi mes livres, parmi mes disques et mes papiers, ma guitare est désaccordée, et mes chansons depuis sont ivres. Et nous vécûmes, jour après jour, sur mon vieux divan vert, tout imprégné de son parfum amer, son petit peignoir brodé chinois par terre, parmi mes disques, parmi mes livres. Et aujourd'hui, par cette chanson, je veux remercier le hasard. On croit s'aimer juste un seul soir, et on s'est donné pour la vie. Oui, pour la vie. Et chaque nuit est un anniversaire d'un jour heureux, d'un jour vécu à deux, dans ma petite chambre sous les toits, parmi les livres, parmi les disques.
C'est assez difficile de reprendre la parole derrière cette chanson de Rezvani, La fenêtre à tabatière. C'est vous qui êtes venu avec ça dans votre besace, Mona Cholet. Juste avant, on entendait la voix de Chantal Thomas qui parlait de son ouvrage « Comment supporter sa liberté ». C'est un ouvrage que vous citez beaucoup et elle y évoquait là à l'instant dans cette archive les chambres de bonne qui étaient des chambres de passage. Pour en évoquer la petitesse, Rezvani derrière parle aussi de la petitesse, une petitesse très charmante parce que c'est aussi le nid, pour reprendre un mot de Bachelard, le nid du couple et de l'amour. Pour autant, la petitesse des espaces, si vous ne manquez pas de les décrire comme étant charmants, vous dites aussi qu'on y est condamné parce que les prix de l'immobilier explosent, parce que la densité des villes est énorme. Et finalement, vous dites que le logement, vous écrivez que le logement est une récompense petite d'un travail énorme auquel on est par ailleurs condamné. Ça pose aussi cette question-là des rythmes de vie et des modèles de vie qui sont imposés.
Oui, c'est vrai que j'étais assez intéressée par toute cette tendance qu'on observe aujourd'hui de faire la promotion des petits espaces en fait qui seraient écologiques, mignons, romantiques, et ce qui me paraît assez dangereux comme discours parce que, enfin, on le voit notamment aux États-Unis parce que par exemple la mairie de New York promeut des micro-appartements pour des couples, des familles monoparentales, et bon concrètement c'est complètement infernal comme, c'est-à-dire quand c'est pas un lieu où vous êtes seul dans votre jeunesse pendant vos années de formation, où il y a un peu le côté de l'aventure, de l'entrée dans la vie adulte qui rend ça non seulement supportable mais agréable et excitant. Je pense que quand c'est pour toute la vie et quand vous êtes condamné aux petits espaces, je pense que ça peut être vraiment très dur. Ne serait-ce que voilà, l'impossibilité de s'isoler, l'impossibilité d'inviter des amis, de ranger les objets, les affaires auxquelles on tient, qu'on a peut-être hérité de ses parents. Enfin, ça pose plein de questions. Ça pose aussi la question de la place symbolique qu'on accorde aux uns et aux autres dans le monde, en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément absurde de demander d'avoir un lieu dans le monde où on peut assurer une sorte de continuité de son histoire et avoir un peu un repère stable, un minimum de solitude, de confort.
C'est tellement pas absurde que Michel Perrault en avait fait une histoire en s'intéressant à l'histoire de la chambre à coucher et en montrant combien est-ce que c'était l'une des revendications de la lutte ouvrière, de disposer d'un lieu en effet pour écrire une continuité de soi. Et ça vous oblige aussi à passer au Mona Cholet par toute une réflexion politique autour du mal logement, de l'impossibilité pour beaucoup de personnes de ne pas se loger ou de se loger mal. Je commençais la discussion ou l'émission même en parlant d'un essai de Judith Butler, Ce qui fait une vie, et qui se demande en introduction de son ouvrage comment réfléchir à ce qui fait une vie bonne, une vie vivable, alors que le monde organise collectivement une violence appliquée à bien d'autres vies que la sienne. D'une certaine manière, ce livre aussi, le vôtre, chez soi, une odyssée de l'espace domestique, demande aussi comment réfléchir à son propre espace, à son propre chez-soi, quand tant d'autres en sont privés. Est-ce que c'est une tension que vous réussissez, pas forcément à résoudre, mais en tout cas avec laquelle vous réussissez à vivre avec ?
C'est-à-dire, je crois pas trop à l'autoflagellation et à la culpabilité, donc je pense que quand on a la chance d'avoir un toit sur sa tête, Il faut en profiter, il faut y être heureux.
Et
faire des danses joyeuses à travers les pièces, absolument. Mais ensuite, je regrette qu'on soit pas un peu plus attentif au fait que même quand on est soi-même bien logé, c'est dur de vivre dans un monde où tellement de gens le sont pas. En fait, je pense que ça affecte l'atmosphère générale dans laquelle on vit. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que vivre dans une gated community entourée de clôtures très hautes, de barbelés, est-ce que c'est agréable, même si on a une piscine et un jacuzzi? Je sais pas, c'est quand même... c'est étrange qu'on se pose pas davantage cette question. Ou pour certains habitants du Brésil, certains habitants très riches, être obligé de se déplacer en hélicoptère pour pas se faire braquer parce qu'on est très riche dans un pays très pauvre... Est-ce que c'est pas aussi une vie assez minable d'un certain côté, ne pas pouvoir simplement flâner dans les rues? Enfin, je pense qu'on passe à côté de ce que pourrait être une qualité de vie collective, en fait. Alors évidemment, dès qu'on dit qualité de vie collective, ça fait flipper tout le monde parce que tout d'un coup, ça ramène des images d'Union soviétique grisâtre. Mais je crois que le monde dans lequel on vit, c'est pas une réussite, quoi. Donc on est quand même un peu obligé de se demander si on pourrait pas imaginer d'autres modèles de bonheur.
Il y a des modèles de bonheur, en tout cas des modèles d'habitat qui sont aussi questionnés dans votre livre Chez Soi. Quels sont ceux qui vous ont semblé les plus pertinents ou les plus joyeux, puisqu'il est beaucoup question de joie quand on parle de maison?
J'ai consacré un assez long passage à un architecte japonais pour lequel j'ai une sorte de coup de foudre qui s'appelle Fujimori qui s'inspire assez largement de l'architecture traditionnelle japonaise mais qui en la réinterprète d'une manière très fantaisiste ce qui est très intéressant pour moi dans la tradition japonaise et que Charlotte Perriand, donc on a entendu au début de l'émission, avait elle-même magnifiquement intégré, c'est cette utilisation des matériaux naturels, en fait, c'est-à-dire le bois, la paille, la pierre, la terre, enfin. Pour moi, c'est presque un prolongement de mon précédent livre parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait Beauté fatale sur le rapport au corps et à la beauté. Et j'avais remarqué dans ce livre que souvent on évoluait dans des environnements où on était entouré de matières qui semblaient faites pour prendre notre corps en défaut, c'est-à-dire des matières qui ne sont pas en affinité avec nos corps et dans lesquelles, à côté desquelles ils peuvent que paraître déplacés, sales, moches. Et ce que je trouve très beau dans l'usage de matériaux naturels, c'est cette affinité avec le corps des habitants, en fait. Donc Terunobu Fujimori réutilise de manière magnifique des matériaux très bruts comme ça. Et ces maisons sont un mélange. Il y a un côté à la fois très stimulant, c'est-à-dire que il a un côté, un rapport à l'enfance très direct là aussi, ce qui fait un peu écho à Bachelard. Dans ces maisons, il met des trappes, il met des échelles. Parfois, la seule voie d'accès à une pièce est une échelle, des chambres d'enfants notamment d'ailleurs. Donc il y a un côté très aventureux dans ces constructions. Elles ressemblent parfois à des animaux, ces maisons, ça fait travailler l'imagination énormément. Et en même temps, elles ont quand même ce côté refuge. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a souvent des très petites fenêtres sur ces façades. Et à une époque, on est entouré de où la baie vitrée a l'air d'être une sorte de paradigme architectural omnipotent.
Et le paysage comme un trophée, vous écrivez ?
Oui, c'est ça. Ouais. Il me semble que la petite fenêtre, ça dénote un sens de l'intimité qui est vraiment très précieux et qu'on a un peu tendance à perdre.
Vous parlez aussi, ça donne très envie de s'y promener, d'une maison bâtie en quelques jours en Suisse, dans un parc et fait en bottes de paille. Et ce qui m'a, moi, donné le plus envie de me promener dans cette maison, c'est la qualité de l'air. Qui n'a pas goûté à de l'eau de source ne peut pas se rendre compte de la différence entre l'eau du robinet et une eau fraîche, une eau de source. Et qui n'a pas goûté à une bonne qualité d'air dans une maison ne peut pas non plus se rendre compte du bonheur que c'est. Est-ce que vous avez eu plaisir à vous y promener, vous ?
Ah, je ne m'y suis pas promenée, malheureusement. Non, je regrette beaucoup. Elle a été incendiée, cette maison. Elle a existé seulement 4 mois. C'était un incendie criminel, vraisemblablement, parce que là, c'est vraiment une construction qui avait soulevé les passions à l'époque à Lausanne. Mais c'est vrai que je regrette beaucoup, parce que la manière dont ses habitants la décrivent, enfin, ils racontent que donc leur mur était en bottes de paille, ce qui est un matériau absolument sérieux pour construire des maisons. Il y a des architectes qui créent des maisons en bottes de paille. Et ils racontaient qu'il y avait quelques grains qui avaient germé dans leur mur et que, enfin voilà, que l'atmosphère était complètement unique.
Mona Chollet, ce livre Chez Soi, il soulève tellement de questions, la vie en couple aussi, des modèles imposés depuis l'extérieur, le rapport à la domesticité, le fait de reléguer des tâches domestiques et de ménage à d'autres personnes et à des personnes socialement plus en difficulté que soi, etc. etc. Il pose aussi, donc on pourra pas, en gros je suis en train de dire qu'on pourra pas faire le tour de tout, mais il pose aussi la question de la maison rêvée et de la manière dont on se projette avec plein de palais dans la tête. Est-ce que la vôtre est toujours la même ? Est-ce que votre maison rêvée est toujours la même ?
Bonne question. Non, je crois pas. Non, ce qui est beau, c'est la multitude, justement. C'est ça qui... Je me posais la question, justement, en écrivant le livre. Je me disais, est-ce que quelqu'un dont on réaliserait tous les rêves en matière d'habitat...
Arrêterait de rêver à une maison ?
Ouais, c'est ça. Et je pense que non, en fait. Je pense que ça fait partie de... Enfin, je pense qu'il y a une curiosité élémentaire, quoi. C'est-à-dire essayer de, quand on se promène le soir dans la rue, essayer d'imaginer les intérieurs, de envier les personnes qui habitent là, le cas échéant. Enfin, je pense que c'est les multiples combinaisons possibles font vraiment partie du plaisir de la rêverie. Donc, je crois que ce serait impossible de les enlever.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Et il est 16h52 sur France Culture. Chaque jour à cette heure-ci, nous demandons à quelqu'un de raconter un moment marqué par une émotion forte. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au foyer de vie pour travailleurs migrants africains, Rubisson, à Paris. Et on y a rencontré Sidi, Chantal et Sylvain, notamment réunis autour de l'atelier radio animé par l'association Attention Chantier. On vous en dira plus, mais pour en savoir plus, vous pouvez aller sur la page Au Singulier, sur notre site franceculture.fr. En tout cas, aujourd'hui, c'est Chantal qui nous raconte comment elle apprend le français. D'abord en répétant, ensuite en répétant encore, et puis ensuite en inventant.
Je suis arrivée du Sénégal en 1974, et je ne savais pas parler français. J'avais 8 ans, et on ne pouvait pas me mettre à l'école parce qu'on me trouvait trop grande pour commencer l'apprentissage. Donc du coup, je suis restée à la maison. Et je ne sais pas comment elle est arrivée là. On avait un petit poste de radio. Et dès que j'avais un moment, je savais que ma mère n'allait pas accepter du tout que j'écoute la radio. Donc je me cachais pour écouter la radio. Et il y avait toutes ces radios qui existaient. Alors j'ai fait connaissance avec les artistes français. Et puis au fur et à mesure, je faisais tout pour vraiment mimer. Alors je répétais derrière le présentateur, les chansons, j'essayais de mimer pareil. J'ai pas forcément parlé français, mais dans ma tête, il y avait des mots qui étaient en réserve. Puis après, il y a une voisine qui était antillaise, qui habitait en haut, parlait très fort. D'ailleurs, son fils, parce que quand même, on m'a fait une évaluation pour l'apprentissage, donc j'ai été dans une école primaire. Et la maîtresse m'a présenté à tous les élèves. Voilà, je vous présente Chantal. Et seulement, j'avais demandé à ma sœur avant qu'est-ce que j'allais bien faire à l'école. Ma grande sœur m'a dit, mais il n'y a rien à faire, tu répètes ce que dit le maître. Donc du coup, la maîtresse me présente aux élèves et me demande comment tu t'appelles. Et moi, j'ai bien compris la leçon, donc je répète, comment tu t'appelles? Et elle me dit, non, toi, comment tu t'appelles? Alors, j'ai répété, elle a compris que ça allait aller plus loin. Donc, elle a appelé un petit garçon noir. Il est censé parler la même langue que moi parce qu'il est noir. Et il vient, il me parle créole. Moi, je vois bien que c'est pas un adulte, je peux répéter ce qu'il dit, c'est pas le maître. Donc, je lui parle ma langue, il se met à fuir en pleurant parce qu'il avait rien compris. C'était trop violent pour lui. Donc, ce petit garçon, sa mère habitait juste en haut. Et il parlait très fort, il parlait créole. Et comme le créole se rapprochait du français, je me suis mis pareil à répéter, à imiter. Ça a été ma première langue avant le français. Puis par la suite, il y a eu un événement qui a fait que je me suis plus ou moins retrouvée à la rue. J'avais à peu près 13-14 ans. Et du coup, j'ai rencontré une dame qui travaille à l'université. Et qu'une fois, m'avait emmenée avec elle le temps de me ramener chez elle. Après, pendant peut-être, je ne sais plus, 3 mois, à chaque fois, elle partait, elle me disait silence et elle me cachait dans un petit coin. Et c'était les cours de psychologie. Et là, du coup, je mémorisais les mots pour pouvoir après apprendre à parler français.
Est-ce que vous avez l'impression, à un moment donné, que le français est devenu... votre langue vraiment à vous, c'est-à-dire que vous étiez en mesure de vous exprimer vraiment avec cette langue-là?
Oui, d'autant plus que il y avait des moments où ma mère, elle s'endormait devant la télé et elle mettait toujours le parlement. Alors là, c'est le français, on va dire, assez compliqué. Mais bizarrement, ça me plaisait parce que je me disais, voilà, c'est ce français-là que je voulais parler. Et au fur et à mesure, j'ai tenté d'imiter ce français-là, c'est pas passé. Parce que c'est pas le français de la rue, c'est pas le français du peuple. Mais j'ai toujours aimé, j'aurais voulu être poète, j'aurais voulu être je sais pas, j'ai toujours admiré les gens qui font des rédactions, etc. Donc effectivement, j'aime le français, j'aime parler français. À la limite, ça m'énerve parfois quand on enlève des mots français pour les mettre en anglais, parce que je me dis, mais j'ai cherché tellement longtemps à parler ce français et je vois qu'il y en a qui le gaspillent. On peut rajouter une autre langue, mais on ne peut pas le changer au point où c'est devenu tellement général qu'on oublie qu'il y a un mot français qui est équivalent.
Ce long voyage est fini. Je me retrouve au pays. C'est d'un pas léger que je me dirige chez moi. J'avais peur que tout me soit étrange, mais rien ne semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles.
Mona Chollet, c'est vous qui avez souhaité entendre Les grilles de ma maison de Dalida. Et on se disait avec David Jacobovies qui réalise l'émission qu'en effet, il y a vraiment le bonheur de pousser les portes de la maison quand on rentre d'un petit ou d'un grand voyage pour retrouver son chez-soi, quand on en dispose. Les grilles de votre chez-vous, en tout cas, est très ouvert grâce à ce livre publié aux éditions Zone, une odyssée de l'espace domestique chez soi. Merci beaucoup, Mona Chollet.
Merci
d'avoir ouvert cette semaine entièrement consacrée à l'intérieur. Cette émission, elle peut se réécouter à la maison, mais elle peut aussi se réécouter partout ailleurs, grâce à franceculture.fr et au podcast, les nouvelles vagues et au singulier. On peut aussi s'écrire sur franceculture.fr, on peut aussi s'écrire via Twitter ou Facebook, on peut même écrire à Mona Chollet, @monacholet tout attaché. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot qui pensent et préparent cette émission. Une émission réalisée cette semaine par David Jacobovies avec aux manettes aujourd'hui Jean-Frédéric. Dans un instant, le 5 à 7.